Décryptage.
Souvenez-vous, c'était en 2017. Aux États-Unis, l'exposition publique du comportement de prédateur sexuel du producteur américain Harvey Weinstein entraînait des femmes anonymes, le plus souvent, à dénoncer sur les réseaux sociaux la récurrence d'un harcèlement sexuel masculin dont elles se disaient victimes. Ainsi est née la vague MeToo, moi aussi en français. Cette tendance s'est répandue comme une traînée de poudre dans tous les pays, modifiant les rapports hommes-femmes. Qu'en est-il aujourd'hui, notamment en France ? C'est ce qu'a cherché à comprendre la philosophe et psychanalyste Sabine Procoris dans son essai percutant paru au Cherche Midi, Le Mirage MeToo. L'éditeur, écrivain et critique littéraire Vincent Roy exprime lui aussi son ressenti par rapport à ce phénomène à travers un bref et intense roman d'amour solercien, Un printemps neuf, publié également au Cherche Midi, car MeToo a aussi, eh bien vous allez le voir, des effets assez dévastateurs sur la littérature.
Décryptage, Laurent Lemire.
Bonsoir Sabine Procoris.
Bonsoir.
Bonsoir Vincent Roy.
Bonsoir.
Sabine Procoris, le titre de votre livre, Le Mirage MeToo, il y a une sorte de double acception du mot mirage. On est à la fois dans le désir de libération de la parole et dans une déception de cette libération de parole.
Oui, enfin, le mirage, en effet, j'ai choisi ce titre et je ne l'ai pas choisi tout de suite. Il s'est imposé au fur et à mesure du travail, comme souvent les titres. En fait, ça signifie d'une part qu'il y a une illusion, en effet, de libération, c'est-à-dire, certes, la cause est certainement juste, dénoncer un certain nombre d'abus,
d'un certain... De prédateur sexuel.
Enfin, moi, je suis très prudente avec le terme de prédateur sexuel. Mais oui, parce que ça nous met dans le même sac du trou et un grand séducteur, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, disons, ça met dans le même... Il y a une illusion, évidemment des comportements tout à fait abusifs, mais enfin, les femmes ne sont pas non plus incapables de se défendre. Et si on revient à Weinstein, bon, tout de même, Asia Argento, qui a crié beaucoup, a vécu 15 ans avec lui. Donc, bon, certes, ses comportements étaient tout à fait...
Plus que déplacés,
non, mais tout à fait condamnables. D'ailleurs, il a été condamné extrêmement lourdement, d'une manière certainement punitive. Hein. Mais il ne faut pas non plus oublier le pouvoir sexuel des femmes. Et je pense à une couverture de Charlie Hebdo au moment de l'affaire Weinstein. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, où on voyait, c'était très drôle, Weinstein moche comme il est, vraiment, et dire d'un air absolument... Enfin, c'était assez dégoûtant. Les femmes ont eu besoin de coucher. Certaines femmes ont eu besoin de coucher pour avoir du pouvoir. Et moi, j'ai dû attendre d'avoir du pouvoir pour pouvoir coucher. C'est désolant. Mais quand même, c'est un aspect des choses qu'on ne souligne pas et que pourtant, il faudrait peut-être indiquer. Bon, je ne vais pas défendre Weinstein, bien entendu. Ensuite, le mirage, c'est que je pense que c'est un mirage aussi parce que il y a une illusion de libération de la parole, car ce n'est pas une libération de la parole. Je pense que c'est un formatage de la parole et par conséquent, un écrasement de la parole. Et donc, il y a une sorte de... Quand je disais mirage, c'est au sens presque physique, si vous voulez. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet Fata Morgana. C'est-à-dire, vous voyez une oasis ou un objet quelconque.
Parce qu'on a envie de le voir aussi, quelque part.
Oui, on a envie de le voir, mais c'est surtout que vous le voyez, il existe. Seulement pas du tout là où vous le dites. C'est-à-dire, il y a bien entendu des vrais problèmes autour des, ben voilà, d'un certain nombre d'abus dans la question, enfin, du point de vue sexuel. Mais en même temps, c'est pas du tout là où MeToo le situe en réalité. Parce que MeToo est, je pense, un mouvement structurellement vicié avec quelques effets bénéfiques, évidemment, pour les femmes et pour les hommes, peut-être. Quoique j'ai des doutes en ce moment.
Vincent Roy, alors vous aussi, vous parlez à travers ce roman Un printemps neuf, qui est, je disais, un roman solercien, parce que c'est une histoire d'amour
à Venise,
évidemment. Mais pour ça, j'employais le mot solercien, parce qu'il y a cette histoire d'amour, et puis il y a aussi des incises qui sont plus littéraires, politiques, d'une certaine manière, où justement vous exprimez cette difficulté à parler d'amour et peut-être de la manière dont la littérature aujourd'hui lui parle d'amour compte tenu de, je dirais, de cette ambiance sociale un peu différente liée à la vague MeToo.
Oui, parce que précisément, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, au passage, j'en profite pour dire, je suis tout à fait d'accord avec Sabine Procoris, c'est de toute façon, pour moi, la sexualité qui est pointée.
Bien sûr.
C'est de ça dont...
C'est une détestation de
la
sexualité.
C'est une détestation de la sexualité, c'est de ça dont il faut parler en priorité, me semble-t-il. Premier point. Deuxième point, effectivement, ce qui me captive dans toute cette affaire MeToo et de relations entre les hommes et les femmes, de libération de la parole, et la parole a toutes les raisons de se libérer, et il faut mettre comme préalable qu'il n'y a pas de raison de laisser des mâles courants sauter sur des femmes en attendant quelque chose. Il est normal qu'elles parlent, qu'elles prennent la parole, si tant est qu'elles la prennent à bon escient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la censure que cela fabrique. Et c'est là-dessus que j'insiste dans Un printemps neuf, en montrant de manière positive et gratuite comment ça peut se passer entre un homme et une femme. Alors précisément, pas n'importe où, à Venise, parce qu'il me semble que là, il s'est toujours passé entre les hommes et les femmes quelque chose, donc il n'est pas innocent que je prenne Venise aussi comme un personnage de roman, mais j'insiste beaucoup sur cette censure dont on entend peu parler les hommes. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le silence des hommes sur cette question. Autrement dit, le silence des hommes sur la sexualité aussi.
Bien sûr.
Mais parce que, Sabine Procoris, ce que disait Vincent Bras, ils sont désignés comme, justement, prédateurs.
Oui,
les femmes sont les victimes,
ça,
et les hommes sont les agresseurs.
J'ajouterais que ça concerne, au-delà même de la sexualité entre les hommes et les femmes, c'est la sexualité tout court. C'est-à-dire, quand vous entendez une des égéries du mouvement Alice Coffin vous expliquer que les lesbiennes ne sont pas des homosexuels, c'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire que c'est pas du tout la sexualité est vraiment mise de côté, parce que la sexualité, évidemment, c'est un espace de trouble des frontières, des identités, etc. Par contre, c'est l'idée d'un lesbianisme politique pour constituer l'ennemi de genre. Alors pourquoi est-ce que les hommes sont des prédateurs et pourquoi ça crée ces effets de censure? Je pense que c'est même bien pire qu'un effet de censure. Je pense que c'est quelque chose qui rend impossible la littérature et l'art. MeToo. Pourquoi? Parce que si on écoute une des intellectuelles organiques du mouvement, Camille Froidevaux-Métry, elle explique ce qu'elle résume très bien à l'enjeu de MeToo, c'est défaire le récit patriarcal pour substituer le socle patriarcal de la société pour lui substituer un récit féministe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit dans l'esprit de MeToo? Ça vient tout ça des théories de Butler sur la constitution des minorités, c'est une théorie de la domination, mais l'idée du récit, c'est très étonnant. Ça n'est ni la relation des faits, dans le show d'Adèle Haenel, d'ailleurs, sur Mediapart, elle n'arrêtait pas de dire « il nous faut un nouveau récit » ou « des nouveaux récits ». Mais le récit, ça ne signifie pas dans ce cas-là, disons, la relation des faits, qui peut être plus ou moins biaisé, de mauvaise foi ou de bonne foi, avec des points aveugles, des angles morts. Bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et quand le récit signifie la relation des faits, là on raconte ce qui se passe en Ukraine, bah, y a d'un côté l'ordre du langage, du discours, et de l'autre, l'ordre de la réalité qui excède évidemment ce que le discours peut en dire et qui est l'objet vers lequel tend le discours. Ça n'est pas non plus l'espace de la narration, de la fiction, où on sait très bien qu'on est dans un espace de fiction qui a sa logique propre, qui peut d'ailleurs dire beaucoup de choses sur la réalité. Balzac nous parle de la société du 19e, mais on sait que c'est de la fiction. Le récit, c'est au fond une vision du monde qui a une puissance dite performative, c'est-à-dire qui fabrique la réalité elle-même, y compris la réalité matérielle, y compris les corps. Et vous le voyez par exemple dans le lexique actuel, le lexique trans du planning familial, qui vous explique, alors déjà genre, deux points, classe sociale, c'est une classe sociale, je ne savais pas. Classe sociale, en Occident, comporte deux catégories, les dominants qui sont les hommes et les dominés qui sont les femmes. Je prends cet exemple. Et un exemple juste après, c'est assignation de sexe à la naissance. Assignation de sexe. Deux points. Les médecins décident à partir de normes de longueur du pénis ou du clitoris, si le nouveau-né est un garçon ou une fille.
C'est merveilleux.
Mais oui, non, mais vous rendez compte. Ça veut dire que là, on est dans un délire psychotique, complètement, effectivement, est l'exemple, et c'est comme ça que Preciado nous explique que les corps Béatrice Paul B. Preciado, c'est-à-dire anciennement Béatrice Preciado, sont des prothèses politiques, c'est-à-dire que le corset, le petit bandage des pieds des Chinoises, le voile et les organes, tout ça, ce sont sur le même plan de réalité, qui sont produits par le discours de la domination. Donc il faut le renverser. Par conséquent, comment voulez-vous qu'il y ait de la place pour la fiction? Il ne peut y avoir... La littérature et l'art en général n'est qu'une province du récit patriarcal.
Oui.
Donc il faut remplacer ça par des récits, par des œuvres à thèse.
Alors c'est Vincent Roy dans ce roman justement, Sabine Procoris parlait de ces on veut de nouveaux récits, mais alors les anciens récits on n'en veut plus. Alors vous donnez des exemples très précis, Carmen, Molière,
Homère, l'épisode Nausicaa est formidable. Alors évidemment, il a été. Alors je vous signale quand même que cet épisode avait été interdit par une ligue contre le vice, une ligue américaine contre le vice, au moment où Joyce a publié son Ulysse. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait bien pointé le fait que Joyce là commettait une sorte de d'imprudence à écrire de cette manière-là, ou à réécrire plutôt de cette manière-là, le récit d'Homère. Je voudrais simplement dire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est à partir de ces théories, qu'est-ce que les hommes et les femmes vont alors avoir à se dire? Parce que selon moi, l'amour ne va pas sans dire, c'est même l'art de dire. Je dis souvent, enfin j'ai l'habitude de dire que lorsque vous regardez précisément un film pornographique, ça ne parle pas beaucoup. Bon, l'amour, à l'inverse, c'est l'art de dire. Alors comment faire en sorte que l'homme et le femme, comme disait le vieux Lacan. Puissent encore aujourd'hui se parler. C'était le thème de votre émission, cher Laurent Lemire. Qu'est-ce qu'ils vont bien encore avoir à se dire aujourd'hui? Je suis assez désespéré pour ce qui est de la situation.
Sabine Procoris, oui, parce que la suite de MeToo, donc vous l'en rappeliez, née aux États-Unis, c'est Balance ton porc.
Ah ben c'est même pas dans ce sens. C'est-à-dire il y a d'abord l'article du New York Times qui raconte l'affaire Weinstein le 13 octobre 2017. Le 14 octobre, Sandra Müller nous lance son Balance ton porc sur Éric Brion qui lui a dit une phrase graveleuse, etc. Vous savez quand ça s'était passé? Ça s'était passé 5 ans auparavant. Donc elle était, comme elle explique, tombée dans une faille spatio-temporelle, blablabla. Moi j'appelle ça en bon français de l'opportunisme. Et c'est seulement le lendemain qu'Alissa Milano lance MeToo. Et il faut savoir que MeToo, il y avait eu quelques années auparavant un mouvement lancé par des femmes de chambre, femmes de ménage, femmes de chambre d'hôtel, noires américaines, sur, justement, qui disaient « moi aussi j'ai été harcelée », etc. Ça n'avait intéressé strictement personne. Là, c'était quand même Hollywood, glamourisation de la victimitude, si vous voulez. Donc, bon, mais alors, vous parlez d'Homère, mais c'est drôle, elles oublient l'épisode de Circé, qui transforme tous les camarades, tous les compagnons du livre en porc, justement. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que comme la théorie qui vient de, disons, c'est de la vulgate butlerienne, c'est pas beaucoup plus solide chez Butler, hein, mais c'est une théorie de la domination et non pas une théorie ni de la conversation ni des rapports les rapports de pouvoir qui sont toujours à double face, si vous voulez, réversibles et avec des tensions. C'est la domination, c'est il y a un bourreau, il y a une victime, et donc il n'y a pas question d'émancipation ou de conversation, mais de retourner la domination. Donc évidemment, on ne peut rien se dire, sauf si on déconstruit les hommes, comme dit l'autre, et qu'ils ont d'ailleurs des groupes de parole pour se déconstruire façon MeToo.
Oui, mais alors on ne peut rien se dire. On ne peut rien se dire. La question est intéressante parce qu'en général, moi je pense que pas au-delà de toute sexualité, mais d'une certaine manière, je pense que les, on ne va pas dire les prédateurs, mais enfin ces types qui sautent comme ça sur des femmes, etc., attendent justement de ces femmes qu'elles aient quelque chose à dire. Et précisément, ce que je constate, ce que j'ai constaté, etc., c'est qu'elles n'ont pas grand-chose à dire. Ce qui m'a fait dire, moi, au milieu de cette vague MeToo, que l'un des symptômes que je voyais surgir de cette vague MeToo, c'est que une écrasante majorité de femmes ne s'intéressait absolument pas à la sexualité.
Et alors, est-ce qu'il y a une notion, vous dites, vous écrivez, ne sentez-vous pas flotter partout comme un formidable désir d'hommage à la vertu?
Ah oui.
Alors, voilà, est-ce qu'on retrouve cette idée de vertu à travers cette...
De vertu au sens de la terreur. Hein. Ah. Et franchement, je me demande souvent, quand je vois les prises de parole, enfin le MeToo politique, par exemple, qui est quand même hallucinant, et tout le monde rend... Enfin, tout le monde s'aplatit. Moi, ce qui me sidère, c'est l'extraordinaire pouvoir d'intimidation de ces femmes.
Ce que vous appelez le MeToo politique.
Il y a une pétition qui s'appelle MeToo politique, qui explique que tout mis en cause doit être écarté de la vie politique, signé par un certain nombre de femmes politiques, etc. Tout le monde a dit oui, oui, bien sûr. Bon, c'est quand même extraordinaire. J'ai fait un petit billet dans Marianne c'est de la semaine dernière, justement, sur les uns qui veulent dénazifier l'Ukraine et les autres qui veulent déviriliser le monde. C'est le titre du petit opuscule, du petit manifeste de Céline Pic, qui est Madame Oser le la porte-parole d'Oser le féminisme, rebaptisée Oser le féminisme Génération MeToo. C'est intéressant, parce que ça veut dire table rase, avant, il n'y avait rien, si vous voulez. Mais effectivement, il y a une sorte d'écrasement complet de tout ce qui pourrait se dire. Il y a juste de la dénonciation, si vous voulez, et de la plainte.
Vous écrivez, Vincent Roy, « Le féminisme a eu ses raisons dans l'histoire, le néo-féminisme à l'œuvre déraisonne, dérive et débonde. »
Oui. C'est la censure dont je parlais tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire que là, il y a des comptes à régler. Voilà, il y a des comptes à régler. Les femmes, bien au-delà de la parole, veulent régler un certain nombre de comptes, et notamment avec, je crois, l'hétérosexualité. Alors le patriarcat, je veux bien, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'hétérosexualité qui est pointé.
Je ne crois pas. Je crois que c'est la sexualité tout court, parce que
la sexualité, bien sûr,
tout court, parce que évidemment l'hétérosexualité est prise comme une sorte de figure princeps, si vous voulez, de la sexualité, ce qui est pas tout à fait faux d'une certaine manière, c'est majoritaire, etc. Puis les sociétés, comme le disait très bien Freud, pour d'excellents, on n'a jamais cherché à transformer un hétérosexuel en homosexuel, alors qu'on n'a pas cessé de vouloir faire le contraire, pour des raisons sociales. Quoi.
Oui.
Bon, mais il n'est pas dupe du tout, il nous explique que l'hétérosexualité, pour le psychanalyste, est autant un problème que l'homosexualité, parce que c'est la question de la sexualité. La question, c'est juste l'entrée, c'est une porte d'entrée dans la sexualité. Mais une fois qu'on est dans la sexualité et dans l'amour, au fond, cette porte d'entrée, peu importe.
Elle n'a plus aucune importance.
Mais alors, je pense que vous parliez de déraison, bien entendu. Ça déraisonne complètement et ça s'accompagne d'une paranoïa sexuelle absolue. Mais quand je dis déraison, c'est au sens où tout ça est totalement mécanique. C'est-à-dire, on substitue à l'histoire, vous parliez de l'histoire, de l'historicité, quelque chose qui est l'idée de systémique. C'est-à-dire qu'elle une mécanique qui tourne en rond, si vous voulez. Par conséquent, il n'y a plus d'histoire, il y a juste... au fond, une mécanique de la domination qu'il faut inverser, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, ça déraisonne, paranoïa sexuelle, et on tourne en rond, en fait. Et en fait, ce ne sont pas tellement les femmes qui veulent régler des comptes. Je dirais que, parce que moi, ce que je vois dans ma clinique, c'est qu'un certain nombre de femmes sont un peu déboussolées par ce mouvement MeToo, et elles sont imprégnées par cette propagande, mais ça les met très mal dans leur vie amoureuse, parce qu'elles ne savent plus quoi faire de leur propre libido, en réalité. Et comme le disait Freud, la libido est d'essence masculine dans les deux sexes, ce qui ne veut pas dire qu'elle est masculine au sens... mais il dit bien que le masculin chez Freud, comme le féminin, c'est ce qu'il y a de plus flou.
Bon,
puisqu'il emploie deux métaphores pour le masculin qui sont des métaphores contradictoires. Qui sont la main qu'on lève volontairement, donc voilà. Et puis le fleuve qui s'étale, et c'est plutôt un imaginaire féminin. C'est-à-dire, en fait, c'est l'énergie libidinale qui est non sexuée.
Mais ce qu'on voit à l'œuvre quand même, qui est très intéressant dans tous ces phénomènes, c'est que, moi, en tous les cas, j'y vois de nouvelles formes d'hystérie qui s'installent.
Je dirais plus de paranoïa.
Justement, c'est pourquoi je voulais parler d'hystérie, parce que précisément vous parliez de paranoïa. Moi, je vois
Ah oui. Voilà.
Et complètement.
Tac, mais qui est vide, c'est-à-dire qui est vide même d'affect, c'est-à-dire c'est tellement mécanique. Parce qu'au fond, ça ne mange pas de pain,
c'est
de
réflexe,
dire moi
quasiment.
Aussi. Je vous assure, ça fait 35 ans que j'exerce ce métier. C'est la première fois depuis 4 ans que je vois l'imprégnation de la propagande dans les vies psychiques. Et pour les jeunes gens, c'est catastrophique.
Ouais.
Pas tous. Hein. Et pour les jeunes femmes, c'est très compliqué aussi. Parce que comme vous dites, il n'y a plus d'espace.
Non.
de respiration, de jeu non plus, parce qu'il n'y a pas d'humour hein, dans
non.
tout ça.
Non, aucun.
Je vous propose de reprendre notre conversation après une petite respiration musicale. Nous allons écouter une jeune chanteuse qui s'appelle Adèle et qui a composé cette chanson parce qu'elle considérait qu'elle était un peu harcelée verbalement dans les transports en commun. Ça s'intitule « Balance-t-on quoi ?»
Radio Notre-Dame.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas. Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas.
Balance ton quoi, c'est Angèle, c'est un titre de 2018, effectivement, qui s'inscrit dans ce mouvement dont nous parlons, MeToo, et puis balance ton porc, bien évidemment. Sabine Procoris, ça dit quoi de notre société? Parce que vous êtes philosophe et psychanalyste, c'est-à-dire que ce mouvement nous dit quelque chose. Pourquoi ces jeunes femmes, ces femmes, se sentent verbalement ou pas, ou plus gravement, agressées? C'est-à-dire qu'elles considèrent que c'est traumatisant. Est-ce qu'on peut entendre ça aussi?
Eh bien, écoutez, d'abord déjà, elle est très étrange, la chanson, parce que parler comme des animaux, d'abord, les animaux ne parlent pas, que je sache, c'est bon, passons. Ils ont des tas de manières de s'exprimer, mais ils ne parlent pas. Ensuite, cette façon de ravaler les ennemis de genre à l'animalité, enfin, c'est quand même un procédé, ça, qu'on a vu, par exemple, dans l'antisémitisme, dans des choses comme ça. Quant à la violence verbale, je veux bien, mais quand on entend dans un colloque, la violence verbale, l'agression verbale, ça peut être « Ah, bah, t'as de belles jambes, ou t'es jolie, ou je sais pas quoi, ou même t'as un beau cul, admettons, c'est un peu cru, mais bon, d'accord, ça peut être ressenti comme une agression, mais quand vous entendez dans un colloque Virginie Despentes parler d'Elisabeth Badinter, dans un colloque sur la sexualité avec Adèle Haenel et toutes ces grandes intellectuelles, parler d'Elisabeth Badinter en la traitant de vieille rombière ménopausée, pardon, mais je me demande où est le machisme et la beaufrie. Et quand vous voyez sur les trottoirs de mon quartier, au moment des Césars et après, au moment de Pâques, etc., Polanski boit nos règles, point d'exclamation, je me demande où est la violence. Ou celui qui doit être gazé, c'est Polanski.
Boit nos règles.
Polanski, virgule, boit nos règles. Vous voyez bien, j'en parle dans mon livre, vous voyez bien ce qu'il y a. Il y a à la fois le parasite, enfin, il y a tout. Le vampire. Donc, la violence, je me demande de quel côté, verbal en tout cas, je me demande de quel côté elle est. Hein. Bon, très bien. Après, la rue est agressive. Moi, je me fais agresser quotidiennement quand je vois j'ai une jeune femme à vélo qui brûle le feu comme d'habitude et elle me traite. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Tais-toi, vieille morve.
Oui. C'est assez original, permettez-moi. Vieille morve, il y a quelque chose dans morve.
Il y avait un peu d'imagination. Vous voyez bien où est quand même la violence verbale. Je ne pense pas qu'elle soit l'apanage des prédateurs, comme elles disent.
Mais est-ce que justement cette vague-là a contribué à diminuer cette violence sociétale verbale ?
Je pense qu'au contraire, la société est quand même assez désinhibée de ce point de vue-là. Et je pense qu'alors, quand même, sur cette question du traumatisme, il faut revenir. Tout ça, c'est une vulgate psy qui vient des théories totalement, non seulement farfelues, mais dangereuses. De la psychiatre Muriel Salmona, spécialiste soi-disant en amnésie traumatique, en victimologie traumatique, etc. C'est-à-dire, du moment qu'il y a une agression, quelque chose qui est ressenti comme une agression, qui est ça le critère, eh bien, vous êtes traumatisé. Et traumatisé, ça veut dire que votre vie, c'est la catastrophe, c'est l'effondrement. Alors, certes, il peut y avoir une vérité subjective, mais si on prend un autre exemple que les histoires sexuelles, prenez un jaloux pathologique. Bien entendu qu'il souffre réellement. Il croit à ce qu'il dit en plus. Et en plus, il est convaincant. Est-ce pour autant que la teneur de son discours dit quelque chose de la réalité extérieure ? Absolument pas. Donc la vérité subjective, elle se traite pas dans l'accusation sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, mais chez les psys peut-être.
Mais, Vincent Roy.
Oui, vous parliez de... Non, mais moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, vous parliez de la société. Vous disiez la société laisse faire. Mais de toute façon, la société, elle a toujours menti. Elle ne fait que mentir. Elle ment depuis qu'elle est société, si j'ose dire.
Mais vous écrivez, regardez de près où en est votre littérature et vous saurez dans quel temps du désir vous vivez.
Oui, exactement. Vous voyez bien que là...
Pourquoi vous avez justement voulu écrire cette histoire d'amour, est-ce que c'est aujourd'hui on peut encore écrire certaines histoires d'amour ou comme vous l'expliquez, elles doivent être un peu formatées. Vous dites l'idéal pour la librairie, pour la critique, c'est le roman négatif, douloureux, mélancolique,
bien sûr,
corps empêché et laborieux.
Mais bien sûr, c'est ce qui marche,
c'est ce qui fonctionne. Littéraire, voilà, vous voyez bien,
c'est ce qui fonctionne. Donc, il ne faut pas que ça marche entre les hommes et les femmes. Et moi, j'écris un roman pour dire qu'il y a entre un homme et une femme une gratuité heureuse qui fait que l'amour passe à travers ces deux êtres, circule normalement. Il y a une sexualité que je décris dans ce roman entre le narrateur et le personnage féminin comme étant une sexualité heureuse, et je dis oui, ça peut marcher. Je montre comment ça marche. Le roman, pour moi, étant le relevé et la mise en perspective des symptômes de l'époque dans laquelle il s'écrit. Donc je l'écris dans la société dans laquelle nous sommes, et je prouve que cette société précisément ment et qu'une certaine littérature est là pour rétablir la vérité.
Sabine Procorus.
Oui, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que dans cette espèce de mouvement, disons, génération MeToo, on va dire, néo-féministe, qui veut donc substituer le récit féminin, reformater la société complètement, révolution culturelle, c'est bien le terme employé, et c'est pas pour rien. Il y a quand même, d'un côté, l'idée que la sexualité, c'est monstrueux, mais c'est l'envers de l'idée que ça devrait être, en fait, je dirais, totalement idyllique au sens niais, si vous voulez.
Oui, non, pas du tout.
C'est-à-dire une société. Donc, la conversation. Vous savez ce que j'ai appris ? Figurez-vous qu'il existe. Alors, toute la théorie du consentement, enfin, la soi-disant théorie du consentement, elle botte complètement en touche sur la question du désir, en mettant la notion du consentement là où elle n'a pas exactement sa place. Mais il existe des partouzes avec des ateliers, ça s'appelle des soirées sexpositives. Je me suis renseignée sur Internet parce que quelqu'un m'en a parlé. Et alors, à l'intérieur, vous allez donc comme dans les partous traditionnels, hein, pour faire l'amour à plusieurs. Bon, voilà. Seulement, il y a des groupes, il y a des ateliers, il y a des groupes de
faire l'amour à plusieurs. Il y a beaucoup d'homosexualité là-dedans.
Non, alors. En tout cas, vous savez ce que bon, il y a des partous.
Deux types qui font l'amour à la même femme.
Bien sûr, mais non, mais je
c'est d'accord, pas à vous
mais
que je vais
non,
apprendre
mais
ça.
C'est pas de ça que je voulais parler, c'est qu'il y a des groupes de parole là-dedans, des ateliers. Sur le consentement, sur ceci, sur cela. Donc c'est l'alliance. Voilà.
Il y a bien quelque chose à dire.
Et du puritanisme, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas qui les anime, les ateliers, je n'ai pas été y voir.
Est-ce que il n'y a pas un paradoxe entre ce que justement disait Vincent Roy en disant les hommes et les femmes ne se parlent plus, n'ont plus rien à se dire, et puis d'un autre côté, ce mouvement où il y a une sorte de parole, alors je dirais, de afflux constant, souvent anonyme.
Ce n'est pas ce que j'appelle se parler.
Oui.
c'est déverser une espèce de parole formatée, c'est pas se parler ça.
Et puis il y a une sorte derrière ça, une dénonciation qui passe par ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont ces réseaux sociaux qui ont permis cela.
Oui, ou les réseaux sociaux, mais la grande presse, il y va largement et la classe politique aussi. C'est-à-dire tout le monde emboîte le pas. C'est-à-dire, vous savez ce que vous rappelez là, c'est de la propagande en fait. Goebbels définissait comment la propagande. Vous rappelez là, il disait nous ne cherchons pas à convaincre, nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées. Nous voulons rétrécir le vocabulaire de façon qu'il ne puisse plus exprimer que nos idées. Ouais. Et quand vous regardez le kit de les éléments de langage MeToo, vous avez un certain nombre de... Alors, la culture du viol, le prédateur, la proie, l'emprise, et tout ça, c'est... Le mot emprise, par exemple, c'est très intéressant. On le voit apparaître dans toutes les dans plein de décisions de justice, dans plein de procédures de divorce. Ah, j'ai vécu 15 ans avec cet homme, mais en fait, j'étais sous emprise, donc j'ai été violée pendant 15 ans. Bon, sauf que bien évidemment que ça existe, les relations d'emprise. Mais c'est pas ce que nous vend la propagande.
C'était le livre de Springora, Vanessa Springora.
Mais justement,
le consentement.
Mais justement, c'est une très mauvaise vision de la question de l'emprise. Là où il y a une vraie vision de la question d'emprise, c'est dans le film de Polanski. À partir du livre de Bruckner, Lune de Fiel, par exemple, où on voit bien comment ces deux pôles actifs dans la situation d'emprise.
Vous parliez de Goebbels, vous savez qu'il y a une chose très intéressante, il demande un livre à un moment, et alors on n'a pas tout le livre sous la main, et là il est en prison, et on lui donne le Lolita de Nabokov le lendemain matin, il est de la nuit, et le lendemain matin il rend le livre au type qui lui a donné pour qu'il lise la nuit, et il dit qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie. J'aime beaucoup cette anecdote.
Oui, mais Lolita, c'est, vous savez, cet universitaire a comparé Adèle Haenel à Primo Levi. C'est quand même extraordinaire.
Ouais. Hein. Oui,
c'est ce qui m'a déclenché. Adèle Haenel qui dit d'ailleurs que Christophe Rugger n'est pas passé à l'acte parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Ce qui veut dire, c'est qu'il était c'est parce que c'était un violeur qui ne l'a pas violé. Donc c'est ontologiquement un violeur.
C'est ce que
donc
j'allais
vous voyez,
dire.
Mais c'est ça. Donc c'est le viol par abstention, si vous voulez. Mais parce que d'un côté il y a les prédateurs, de l'autre il y a les proies. Donc qui viole ou qui viole pas, c'est un prédateur. Bien, eh bien, il explique. En gros, c'est moi qui prends cette formule, mais il dit que il est nourri de la littérature culture du viol, notamment Lolita, qui serait le Mein Kampf, si vous voulez, de la culture du viol. Donc et Mona Chollet, que toutes les jeunes femmes s'arrachent, qui est quand même d'une platitude. C'est une espèce de c'est effrayant. Ça tombe des mains en plus, tellement c'est rien. Toutes les jeunes femmes lisent ça.
Les femmes sorcières, les femmes qui prennent le pouvoir, c'est
une espèce de truc de guide de développement personnel, enfin très très plat. Et elle vous explique qu'il faut certainement pas lire Albert Cohen et Belle du Seigneur parce que c'est le machisme, c'est quand même effrayant, je veux dire, comme écrasement.
Ah oui, totalement effrayant.
Vous dites, Vincent Roy, dans ce roman, parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'insistes, c'est un très beau texte amoureux, mais aussi, je dirais, politique, d'une certaine manière, de réflexion sur la littérature. Et vous dites que l'université est devenue une sorte d'école de police.
Bien sûr, exactement.
Et ça nous renvoie. Alors, est-ce que justement, le wokisme, on va en reparler, est-ce que c'est ce mouvement américain où on veut justement être, soi-disant, éveillé ou cancel culture, c'est-à-dire on veut effacer ce que vous disiez tout à l'heure à propos des grands classiques de la littérature. Et au fond, les universitaires en France entrent un peu dans ce...
Mais la moraline infuse absolument partout. On contrôle, il y a des universitaires...
Y compris chez les critiques littéraires.
Peut-être même aujourd'hui, d'abord chez les critiques littéraires, puisqu'on trie les livres. Il y a, sans qu'on vous le dise, évidemment, des listes de noms, des gens qu'on ne doit plus, dont on ne doit plus parler, ou prononcer le nom, ou traiter le livre. Évidemment, tout ça fonctionne d'un même mouvement. C'est toujours le même mensonge. Mais on parlerait, là on parle de MeToo aujourd'hui, mais 50 ans en arrière, il y a eu, bon malgré tout, il y a eu, et j'en donne quelques exemples, il y a eu des femmes très libres dans l'histoire. Je dis même que les femmes sont belles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité, ce qui n'est pas sans aller, sans une certaine provocation. Mais il y a eu des époques de très grande liberté, je pense aux années 30, je cite Lou s'adressant dans des lettres à Apollinaire, je cite ce qui est quand même merveilleux, les lettres entre Joyce et sa femme Nora, on est là quand même au début du siècle, je ne vois pas Nora choquée par les propos de son amoureux. Oui. Juste une petite chose sur les affaires d'aujourd'hui, je suis toujours absolument étonné que l'on entende se plaindre. D'ailleurs, on n'existe aujourd'hui que dans la plainte. Hein. Les gens n'existent que parce qu'ils se plaignent. Ça, c'est un symptôme aussi, un symptôme d'époque. Mais je suis très étonné qu'on entende des femmes, très en vue, s'attaquer, à raison d'ailleurs, hein, sans doute. Moi, je ne conteste pas tout ça. À Weinstein, à des actrices s'attaquer à tel producteur ou à tel comédien, j'entends rarement une caissière de Tourcoing s'attaquer au directeur du magasin, sachant qu'elle va perdre en s'y attaquant à la fois son poste, son salaire, qu'elle a ses enfants qu'elle doit élever, parfois seule, etc. On entend rarement, socialement, puisqu'il faut parler de la société, le gros animal, comme disait Nietzsche, on entend rarement, le gros animal effrayant, on entend rarement ces femmes aller se plaindre.
Alors qu'on peut bien évidemment imaginer qu'il y a aussi
il me semble que l'ensemble de cette catégorie sociale a davantage à souffrir des injures dont nous parlions tout à l'heure, de « tu as un beau cul » ou que sais-je encore, a beaucoup plus à souffrir de cela que ne l'ont à souffrir un certain nombre d'actrices très en vue. Oui, ça je crois, oui, fondamentalement, oui. Et qu'on ne pense pas beaucoup à ces femmes-là.
Je partage tout à fait votre point de vue, c'est-à-dire j'ai souvent dit qu'il n'y a pas de MeToo caissière, effectivement. Il n'y a pas de MeToo caissière et les femmes, enfin, et en plus, je veux dire, Haenel, si on prend l'exemple d'Adèle Haenel, puisque je me suis appuyée sur l'analyse du cas français pour réfléchir aux logiques qui éclairent les pratiques de MeToo, si vous voulez, ce qu'elle explique tranquillement, sans que personne ne s'en offusque, maintenant je suis une femme puissante, donc je peux écraser l'autre. Et elle l'a bien écrasé. C'est-à-dire, le lendemain, le type était dégommé de tout. Avec des choses absolument hallucinantes. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est la manière dont... Oui, je parlais tout à l'heure du pouvoir d'intimidation, mais le droit, enfin après l'affaire Duhamel, etc., en 3 mois, on a légiféré. Et alors, vous savez, maintenant, il n'y a même plus de définition matérielle du viol, puisque un jeune homme de 19 ans qui a une histoire d'amour avec une fille de 14 ans et demi, eh bien, il est passible de 20 ans de prison.
Et bien sûr. Bien sûr. Je vous reprends juste pour vous provoquer, parce que vous dites, pour vous provoquer gentiment, parce que vous dites il n'y a pas de MeToo caissière. Ça voudrait dire qu'il y a une telle évolution de l'hystérie dont je parlais tout à l'heure, qu'il n'y aurait plus comme la plèbe d'en haut et la plèbe d'en bas, comme disait Nietzsche, il n'y aurait plus qu'une hystérie d'en haut et qu'il n'y aurait plus d'hystérie d'en bas. On est loin depuis Charcot, alors.
C'est-à-dire que ce n'est même pas ça, c'est que c'est ça qui intéresse le public.
Ben, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que ça excite les gens.
Voilà, on y arrive.
C'est un côté people.
On y arrive.
Voilà. Bien sûr.
On y arrive.
Avec le voyeurisme qui va avec.
On y arrive à mon mot de gratuité, c'est-à-dire que tout ça passe quand même parce que je vois ces livres, moi, où l'on va dénoncer qui l'écrivain, qui le grand intellectuel, qui se serait mal comporté, etc. Tout ça fait beaucoup d'argent.
Bah évidemment.
Hein, attention, il ne faut pas oublier cette notion d'argent.
Bien sûr.
Elle est capitale.
Je veux dire, quand même, Camille Kouchner, 350 000 exemplaires vendus. Hein.
Ça paye.
Alors, vous dites, Sabine Procorus, à un moment donné, dans votre essai, justement, que c'est vrai que ce mouvement MeToo, une sorte de... Mais c'est une révolution qui ne fait que commencer? Est-ce qu'on est au début?
Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est Iris Bray qui dit que ça ne fait que commencer.
Est-ce que ça ne fait que commencer?
Ah ben, moi, je ce que je...
Ou est-ce que c'est un moment comme ça, comme le disait Vincent Roy, on a un moment...
C'est parti pour durer. Enfin, je termine mon livre en disant que ça pourrait durer. Bon, il pourrait durer éternellement. Effectivement, depuis, il y a eu MeToo politique, MeToo média, MeToo animateur, MeToo je ne sais quoi.
MeToo littérature.
Avec tout le truc de l'idée de ce que c'est systémique. polémique, tout ça. Bon, très bien. Non, je pense que là, dans la mesure où ça infiltre, infuse, il y a vraiment une hégémonie culturelle au sens de Gramsci. C'est-à-dire, ça sent, en plus, c'est quasiment une religion, MeToo. Si vous dites quoi que ce soit, vous blasphémez. Et ça veut dire que vous êtes anti-féministe, vous êtes contre les femmes, vous êtes pour les violeurs, ce qui est quand même largement, enfin, c'est complètement fou. Mais en fait, non, ça ne fait que commencer, je pense, parce que quand on voit les jeunes générations, comment elles sont imbibées par ce truc, même dans sa version soft, Mona Chollet, etc. Et puis quand on voit surtout comment la classe politique suit, et puis le droit pénal et les magistrats. Quand j'ai étudié dans mon livre les décisions judiciaires,
c'est
les institutions.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et par conséquent, forcément, ça ne peut, on peut pas. Peut-être qu'on va peut-être dans un prochain quinquennat remettre un peu d'ordre, les choses un peu sur leurs pieds. Mais comment voulez-vous défaire des lois qu'on a votées 3 ans avant ?
Je vais vous dire, vous chanter du bout d'outil encore que je pourrais le faire, comme vous le savez. Moi, je crois que l'amour va rétablir tout ça. Que ça va bien se passer, restons légers, l'amour va remettre de l'ordre dans tout cela, je ne crois qu'à cela de manière fondamentale, et pourquoi je crois cela ? Parce que je crois que le meilleur moyen d'échapper précisément à la société, c'est d'être terriblement amoureux.
Oui. Eh bien voilà, ce sera une conclusion. Merci Vincent Roy, merci Sabine Procori. J'invite les auditeurs à lire vos ouvrages. Sabine Procori, ce Mirage MeToo, réflexion à partir du cas français aux éditions Le Cherche Midi, et Vincent Roy, Un printemps neuf, audition du Cherche Midi également, un roman d'amour.
Absolument.
Merci à tous les deux. C'était Décryptage avec la collaboration de Céline Laurence et de Yann Quintot à la réalisation.
Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com.